France Musique. France Musique, guitare, Sébastien Linares.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans les studios de guitare, ravi de vous retrouver chaque semaine sur France Musique. Alors aujourd'hui, je suis hyper heureux de vous proposer toute une émission en compagnie de Dominique Miller, collaborateur et bras droit de Sting depuis 40 ans. C'est également un artiste qui mène ses propres projets sur le label mythique ECM. Un musicien avec un son immédiatement reconnaissable, il vient de sortir un recueil de transcriptions de ses chansons préférées des Beatles, arrangé donc pour la guitare nylon solo. On va revenir avec lui sur tout ça et sur sa carrière en général. Pour notre séquence guitare de légende en fin d'émission, on a beaucoup de chance car on va avoir droit tout simplement à un concert de Dominique en solo avec sa guitare nylon blanche. Il passera de Sting aux Beatles à ses propres compositions et c'est peu dire qu'on a hâte d'écouter ça, restez bien à l'écoute. Et pour l'accueillir à nos micros comme il se doit, je vais prendre ma guitare, ouvrir son recueil sur les Beatles édité chez Al Leonard et vous jouer une des chansons les plus dingues composées par John Lennon, I'm the Walrus. À la guitare seule, les harmonies folles et inventives ressortent directement et la chanson prend des accents de musique minimaliste, c'est très beau. Les Beatles selon Dominique Miller.
Thank you.
Dominique Miller, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup, c'est un honneur de vous avoir à cette table et dans cette émission. Très content que vous soyez venu. Vous venez depuis Los Angeles, c'est ça ?
Oui, hier soir, donc je suis un peu fatigué, mais ça va.
Ok. J'aimerais axer cet entretien autour de votre jeu de guitare, et particulièrement le jeu de guitare nylon que vous avez. Et peut-être on peut commencer par les tout débuts. Comment est-ce que vous avez rencontré la guitare nylon ? C'est quoi finalement votre formation ? Est-ce qu'elle est là depuis les débuts ?
La guitare nylon, c'est le son de Sud-Amérique.
Oui.
Je suis né en Argentine. Je suis né là. Et le son de Sud-Amérique, c'est une guitare de nylon. C'est juste comme ça, parce que tout le monde joue un peu de folklore, musique folklore et samba, musique d'Argentine. Donc, chaque maison a une guitare nylon. C'est obligé.
Donc, vous avez été bercé avec cette sonorité-là, finalement.
Exactement, ouais. Oui. Donc, j'ai commencé à jouer comme ça, de jouer musique folklore d'Argentine, quand j'avais 8, 9 ans. Et ça, c'était mon introduction de la musique.
Mais vous l'avez commencé en vous imprégnant à l'oreille, ou est-ce qu'il y a eu des professeurs, il y a eu des
choses comme ça ? Ma première professeure, c'était ma sœur, Julie. Elle était ma prof et she showed me, m'a montré Samba de Mi Esperanza. Et aussi, il y avait un mélange de ça et Los Beatles. Okay. Donc, la deuxième chanson que j'ai jouée sur la guitare, c'était Yellow Submarine.
Ok.
Donc,
tout était là déjà.
Donc, tous les cordes étaient là pour faire tout possible.
Il n'y a pas eu de transition entre la guitare classique et la guitare électrique ?
Comment ça se passe ? Oui, bien sûr. Quand j'avais 10 ans, 11 ans, j'ai commencé à écouter plus de rock, et The Stones, les Beatles. Mais je me souviens très, très bien, quand j'avais 10, 11 ans, j'écoutais Jimi Hendrix pour la première fois. Et ça, c'est changé ma vie. Et c'est à ce moment-là où je m'ai mis dans la musique plus rock et blues.
D'accord. Et ça aussi, vous l'avez appris tout seul. Vous avez pris une autre guitare. Et
Je l'ai fait par oreille.
À l'oreille.
Et j'avais des amis qui jouaient une guitare aussi. Parce qu'à cette époque, on n'avait pas YouTube. Donc, c'était tout par oreille. Et écouter des disques. Et tous mes disques sont scratched, comme on dit.
Usés,
oui. Oui. Et parce que j'ai fait tout par oreille. Et j'avais pas un prof, mais la première fois que j'avais un prof, quand j'avais 16 ans, je suis allé à Berkeley collège de musique. J'étais déjà prêt avec une facilité de jouer la guitare un peu, pas mal.
Okay.
Et quand j'ai arrivé là, j'ai vu qu'il y avait plein de jeunes garçons de mon âge qui étaient 100 fois mieux que moi. Donc c'était là où j'ai vraiment commencé à jouer et je me dis, OK, now we're serious.
Okay.
Et c'était un énorme changement là.
Professionnellement, quand vous commencez à travailler vraiment, vous travaillez directement avec ces deux aspects, avec les deux guitares, ou est-ce qu'il y en a une qui est plus facile que l'autre à vendre?
Quand j'ai commencé à travailler, c'était plus électrique, ouais. Je crois, parce que j'habitais à Londres, donc j'habitais en États-Unis, après Argentine, et puis en Angleterre. Et quand j'étais en Angleterre, j'ai commencé à jouer beaucoup plus de guitares électriques. Et je ne sais pas pourquoi, mais je m'ai mis dans le monde des sessionnistes. Donc j'étais une guitare qu'on loue, guitariste qu'on loue pour jouer de différentes
guitariste de session, ouais.
Sessions de pop,
ouais, studio,
et de jazz. Okay. Mais j'ai entré dans le monde de pop, juste comme ça. Ce n'était pas mon plan,
okay.
Mais j'ai entré dans ce monde. Et j'avais une réputation à Londres d'être le guitariste qui pouvait faire beaucoup de différents styles.
Ah, oui.
Parce que oui, c'est vrai que aussi j'ai joué le côté plus latino-américain et avec une guitare de nylon. Donc j'avais autre couleur dans mon...
C'est ça, dans votre palette en fait.
Package.
Ouais, 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 ouais.
Donc pour les producteurs, parce que mes clients, c'était vraiment les producteurs plus que les artistes.
Ouais.
Donc un producer m'appelle, il me dit, prends ta guitare électrique aussi, une guitare de nylon ou une guitare sèche aussi, like acoustique. Donc c'est là où commençait ma vie professionnelle d'être guitariste de session. Et ce n'était pas mon plan.
C'était pas le plan, mais c'est ce qui a fait aussi les rencontres et ce qui a,
exactement,
fait, qui a construit la carrière finalement.
Exactement, c'est comme ça que j'ai rencontré beaucoup de différents musiciens, de différents styles, des artistes. Et... Parce que moi, quand j'avais 14-15 ans, je voulais être comme un guitariste acoustique, comme un guitariste argentin ou brésilien.
Okay.
Seulement jouer guitare solo. Mais ça, c'était mon plan. Mais ça changeait.
Vous venez de sortir donc un bouquin, un recueil d'arrangements sur les chansons des Beatles.
Oui.
Et c'est quelque chose que vous faites beaucoup, ça, arranger les chansons pop.
Oui.
Sur la guitare classique, vous avez une manière bien bien à vous de le faire. Bon, déjà, comment ça s'est venu, cette envie?
Oui, parce que quand j'avais 15, 16 ans, j'ai commencé à jouer guitare classique. Pas très bien, mais j'étais fasciné par John Williams, Julian Bream, les deux là. Et j'adorais les arrangements. Parce que la chose que j'aime avec la guitare classique, c'est qu'on peut dire une histoire avec 6 cordes.
Un côté narratif.
Donc on a une mélodie, on a la basse, accompagnement et rythme. Donc tout est là. C'est comme une petite orchestre.
Oui, c'est ça.
Où on peut dire une histoire. Et j'étais fasciné par cette concept d'arrangement. Et c'est pour ça que j'ai commencé à arranger des chansons, mes chansons préférées, qui ne sont pas dans la musique classique, mais je voulais mettre cette esthétique, cette principles dans la musique populaire. Et ça, parce que je suis en tournée presque 10 mois par an. Qu'est-ce que je vais faire dans mon hôtel? Et qu'est-ce que je fais avec un day off, avec mon temps? J'aime bien faire ça, parce que c'est comme méditation pour moi. Donc, je me mets dans des chansons populaires. J'ai commencé à faire des chansons de Elton John, de Stevie Wonder. Le dernier livre que j'ai fait, c'était ça. Je commence avec la mélodie. Est-ce que je peux jouer la mélodie seulement la mélodie vocale? Et si ça marche bien sur une guitare, tout est possible.
Il y a quelque chose de très intéressant dans ce que vous dites, c'est que j'ai remarqué en vous écoutant jouer, vous avez un jeu qui est très porté vers la mélodie. Même au niveau de la main droite, le pouce est très léger et par contre l'appui mélodique est très très présent.
Oh,
j'ai l'impression de sentir que c'est la première chose en tout cas à laquelle vous pensez. Ça retranscrit dans votre jeu et dans votre manière d'arranger finalement aussi.
C'est exactement ça. La mélodie, c'est roi.
Oui, c'est ça.
Et après ça, c'est accompagnement. Et c'est vrai que la mélodie... Parce que si on écoute Bach, par exemple, souvent, il y a seulement la mélodie qui... Il y a des partitas et sonatas pour violine solo qui sont seulement mélodie.
Oui.
Mais toute l'harmonie, c'est dans la mélodie.
Oui, tout à fait.
Donc déjà, avec une mélodie, on a tout ce qu'il faut. Et tout le reste, c'est un bonus, comme on dit. C'est...
Ouais, un bonus, ça
un
marche.
Bonus.
Ça marche, ouais, ouais.
Donc, oui, merci pour dire ça, parce que je pense que ça, c'est le narratif. La mélodie, c'est la narrative. Mm-mm. Il faut respirer avec... quand on parle, quand on chante, il faut respirer. Même chose avec guitare.
Oui, c'est ça. Et même dans les parties que vous choisissez de transcrire, dans les chansons, vous prenez l'essentiel. C'est-à-dire, on ne peut pas tout mettre, on ne peut pas tout mettre dans une chanson. Mais par contre, on a l'impression que c'est même la mélodie qui guide les choix de ce que vous faites. C'est-à-dire
exactement.
Qu'il y a juste l'essentiel.
Et toutes les autres choses, il faut choisir tout ce qui donne la meilleure contribution à l'histoire.
Ouais, c'est ça.
Donc, sûrement la basse. Mais tout ce qu'il y a entre la basse et la mélodie, ça c'est mon prérogative. De choisir qu'est-ce qu'il faut mettre. Et c'est ça le
ouais.
fun.
«
parlait de Bach. Oui. Vous en avez travaillé, j'imagine, non?
J'adore Bach. Ouais. Et tout le monde adore Bach.
Tout le monde adore Bach.
Et
tout le monde adore les Beatles aussi.
Et les deux commencent avec B.
Et je dirais qu'en fait, les deux ont quand même un truc en commun. C'est-à-dire que la musique de Bach, elle est indestructible. C'est-à-dire qu'on peut la jouer, on peut la siffloter sous la douche. Et ça marche, c'est quand même hyper beau. Et les Beatles, c'est pareil.
C'est exactement ça. Je suis d'accord parce que... j'ai une voisine qui habite deux ou trois maisons à côté de moi. Je crois qu'elle est une prof de piano. Et chaque mardi à 4 heures...
il y a les cours.
Il y a les cours. Et je crois que c'est un jeune garçon ou fille qui joue Bach. Mais mal. Mais c'est le son plus joli que je peux écouter. Ouais. Parce que c'est exactement ça. It's indestructible, la mélodie. Et parce que si on joue Chopin ou Beethoven, il faut le jouer bien pour...
Oui, l'interprète intervient plus.
Oui, c'est plus reliant sur l'interprétation. Oui,
ça se
et, je suis complètement d'accord avec toi.
Et pour les Beatles, c'est la même chose.
C'est la même chose, oui.
Si on siffle juste la mélodie, c'est donc l'idée de reprendre juste la mélodie à la guitare. Tiens, si ça marche...
Ça suffit. Tout le monde est content.
Thank you.
je veux pas faire quelque chose qui est trop difficile. Et c'est pas la peine. Parce que moi, je suis pas un très bon guitariste. Moi, je suis plus un musicien qu'un guitariste, je trouve. C'est pour ça que je travaille dans le monde de pop.
Ouais.
C'est parce que jouer dans les chansons de pop, c'est facile à jouer le the parts. Mais avoir l'imagination, c'est plus important que ça.
Tout à fait, tout à fait.
Et souvent, les partitions plus powerful sont très faciles à jouer.
Parlons de cette dualité qui, je pense, n'en est pas une, mais vous jouez avec Sting, donc la plupart du temps, dans des scènes quand même énormes, avec beaucoup de gens.
Oui.
Et parallèlement à ça, vous faites avec votre groupe des festivals de jazz ou des scènes un peu plus réduites. Est-ce que c'est le même musicien qui joue? Comment on s'adapte, en fait, à ça?
C'est une bonne question, ça. Parce que moi, je vois pas une différence entre les deux. La chose plus importante pour moi, c'est d'avoir une bonne connexion avec les musiciens. Donc, si j'ai une bonne connexion avec le musicien ou qui je travaille avec, tout est possible. Si tu es en face de 100 000 personnes ou 100 personnes. Donc, ça, c'est le premier objectif. Donc, si j'ai ça, après ça, c'est qu'est-ce qui se passe en face de moi. Mais je ne joue pas vraiment pour le public, je joue pour mes musiciens.
D'accord.
Et après ça, si on a trouvé la bonne chemistry...
Alchimie,
oui. Oui, je trouve que je peux avoir une connexion avec le public, mais pas avant ça.
Est-ce que c'est pas difficile de garder tous ces petits détails de jeu pour un public de 20 000 personnes?
C'est exactement ça, parce que tous les petits détails peuvent être perdus dans une grande salle.
Mm.
Donc il faut penser qu'est-ce qui marche le meilleur.
Aller à l'essentiel, c'est
oui,
ça?
Oui, exactement.
Ouais, ouais.
Et toutes les subtilités vont être perdues. Donc il faut trouver les bonnes notes. Et moins de notes.
Et moins de notes.
Donc, si je joue dans un stade de foot, par exemple, tous les petits détails vont être complètement perdus. Donc, qu'est-ce que je peux... C'est quoi ma contribution qui peut aider la chanson le meilleur possible? Et c'est fun. J'adore faire ça.
Bien sûr.
Ça, c'est une art de trouver les bonnes notes.
Tout à fait.
Et les bons espaces. Et c'est quand il ne faut pas jouer aussi. De laisser d'espace. Par exemple,
silence.
Le batteriste, je joue avec les meilleurs batteristes du monde, un français aussi, Manu Katché, il est mon pote, et Vinny Colaiuta, et tous les détails qu'ils font sur le hi-hat vont être complètement perdus dans un stade de foot.
Donc, d'aller à l'essentiel comme ça, ça se travaille aussi en groupe, c'est presque un travail de musique de chambre, vous le faites ensemble ou
chamber
chacun...
music, exactement.
Okay.
On parle de ça souvent, c'est quoi chamber music? C'est exactement ça. Donc il faut qu'on ait ensemble une bonne connexion. Le meilleur exemple de ensemble, je crois que c'est une string quartet, une quartet de... Parce que ça c'est une question d'écouter, parce que si on n'écoute pas, c'est... Rien n'est possible.
Ouais, ouais, tout à fait.
Il faut écouter et avoir la bonne intonation. Imagine toutes les possibilités d'erreur qu'il y a avec quatre cordes.
C'est sûr.
Intonation. Donc, c'est la même chose. C'est chamber music. On pense comme ça souvent. Et Sting parle de ça aussi.
enregistrer chez ECM. Oui. On a fait nous récemment une émission sur Ralph Towner.
Ah oui.
J'y vois une filiation, moi, avec vous. Est-ce que c'est un musicien qui vous a apporté quelque chose?
Oui, il est une grande influence à moi, Ralph Towner et tous les musiciens de ECM.
Oui.
Donc imagine le rêve que j'ai de jouer avec. De faire des disques dans ce label.
Parce que c'était votre rêve, c'est ça?
Oui, c'était un rêve de moi quand j'avais 17 ans.
Ouais.
Et c'est un peu surréal d'être dans un studio, dans le même studio, avec le même producteur, le même ingénieur et la même esthétique.
Mm-hmm.
Donc, Ralph Towner, c'est un musicien énorme pour moi aussi, Gilberto Gismonti.
Oui.
Mais pas seulement le guitariste, il y a Keith Jarrett aussi. Et... Jan Garbarek, saxophoniste. Oh. Mais il y a un son, il y a une philosophie musicale. Et la philosophie, c'est d'avoir d'espace.
J'aimerais reparler un peu de votre jeu. Il y a quelque chose que je trouve magnifique, c'est que vous avez un sens du rythme très particulier à vous, un groove très, très puissant, alors que vous le jouez du bout des doigts. C'est-à-dire que c'est toujours très délicat, très piano, très... et pourtant, il y a cette espèce de rythme derrière qui est très orchestral et qui est très... qui nous entraîne. Et je trouve que c'est ce paradoxe-là qui est vraiment intéressant quand je vous entendais jouer.
Là, tu étais très gentil, là.
Non.
Thank you very much. Thank you. Non, mais... OK. Si on parle de technique, la raison que je joue sans ongles, c'est parce que je joue avec la guitare électrique.
Avec le médiator.
La majorité de ma vie, c'est de faire ça avec Sting.
Mm.
Donc, ils étaient toujours cassés.
Ouais.
Donc, il faut apprendre à jouer sans ongles. Donc, j'ai fait ça la dernière 15 ou 20 ans, j'ai joué sans ongles.
D'accord.
Mais je crois que je préfère le son.
Ouais.
C'est plus soft.
Oui, tout à fait.
Et comme tu dis, c'est délicat. Et c'est sûr que je suis fasciné par rythme et funk et rock. Donc, j'essaye le meilleur possible de mettre ce rythme dedans. Mais le son, je peux te montrer, c'est très, très soft. C'est très...
Oui, ça fait penser un peu au son des luthistes, presque
oui, c'est
sans
ça.
Les ongles.
Et c'est la même technique qu'utilise le joueur de la luth.
Oui, c'est ça. Ça se fait que dans tous ces disques CM, il y a cette même esthétique et cette même attention à l'espace. Est-ce que c'est eux qui choisissent? Comment ça se passe?
Ça, c'est Manfred. C'est Manfred. Il est la vision de lui. C'est comparable à, par exemple, faire dans le film. Parce que j'aime le film aussi. Et j'aime beaucoup Polanski et Hitchcock et... C'est la même chose, parce que si on a une histoire, on le donne à Polanski ou à Spielberg, avec le même narratif, on va avoir un différent résultat.
Oui, d'accord.
Et Manfred, il est un peu le Polanski ou le Hitchcock de musique. Parce que comme musicien, je suis inquiété, je suis embarrassé, ouais. Je suis insecure, mais arrogant. Toutes ces différentes émotions,
ouais.
Et il, c'est à cause de lui qu'il te met dans cette position. Et c'est comment pour ça que je suis embarrassé à jouer trop. Donc, pour ça, on laisse beaucoup d'espace parce que j'ai trop peur à jouer, peut-être. Son technique, c'est plus de... c'est quoi ton histoire? Et il va complètement changer ton histoire. Donc, ça, c'est le premier problème, c'est
okay,
là.
OK.
Mais je crois qu'il trouve la meilleure version de ton histoire. C'est comme un photographe. Si un bon photographe prend une photo de toi que tu ne vas pas aimer trop, mais c'est une meilleure photo la photo que tu as choisie.
Prends la meilleure image. Oui, oui.
Parce que quand on fait des disques, souvent, si je produis mes disques, je vais terminer avec une selfie.
Comment est-ce qu'on fait pour arranger un titre comme Blackbird, qui est un riff qui se suffit à lui-même, il suffit que tout le monde l'a joué,
oui.
Tout le monde... Comment est-ce qu'on fait pour finalement sortir de ça, pour arriver à arranger juste la chanson et rendre hommage à la chanson et pas juste au riff?
Avec difficulté, oui.
C'est donc ça.
Non, mais le riff... Tout le monde joue ça.
C'est ça.
J'adore ça, mais la mélodie, c'est... J'adore ça. Donc, le problème pour moi, c'était de trouver une solution. Donc c'est un peu comme ça.
Merci beaucoup.
J'adore cette chanson. Si on parle de Bach, je crois que l'inspiration vient de Bach parce que Paul, il a parlé de Bach.
Oui, oui, oui. Il y a cette interview où il dit que c'est la bourrée de Bach qui lui a inspiré.
C'est exactement ça. Donc, il y a toujours Bach qui entre dans la musique. Je ne connais pas un musicien sérieux qui n'écoute pas de Bach.
C'est vrai.
Bach, c'est le roi de la musique, je crois. La musique moderne a commencé là. Et j'adore... J'adore Bach et tous les musiciens que je connais écoutent Bach.
Et nous, on adore quand vous jouez du Bach. Merci infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Guitare de légende, Sébastien Linares.
Aujourd'hui, dans Guitare de légende, Dominique Miller en live.
Ok, you ready? Thank you.
Guitare Guitare est aujourd'hui réalisé par Patrick Lérissé, enregistré par Delphine Baudet et préparé avec l'aide de Nelly Portal. La semaine prochaine, Thibaut Covin sera notre invité. D'ici là, rendez-vous sur le site et l'appli Radio France si vous voulez vous abonner au podcast, regarder les vidéos, consulter les programmes en détail et nous écrire.
France Musique.